L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors, troisième volet avec l'association Savez Climat, cette association qui crée des alternatives autour d'elle. On a vu donc l'association dans un premier temps avec Sophie, on a vu le groupement d'achat qui est en train de prendre son envol au-delà de l'association d'origine et après se nourrir, un des besoins élémentaires est de s'abriter, d'avoir un toit sur la tête. Et on le sait, l'habitat est générateur de gaz à effet de serre, la construction actuelle n'est pas vraiment, même si les grandes boîtes essaient de nous vendre parfois du développement durable et du greenwashing à tire-larigot. Les cohabitats, ce qu'on appelle cette dynamique des cohabitats, de chantiers participatifs, est une solution pour faire les choses différemment, pour faire les choses en accord avec le changement nécessaire si on veut s'adapter, réduire et s'adapter au changement climatique. Pour en parler, je vous propose de rencontrer Julien. Bonjour Julien.
Bonjour Nicolas.
Alors toi, tu t'occupes donc spécifiquement de l'écohabitat à Savez Climat. Vous êtes parti de quoi ? Comment est née cette dynamique d'écohabitat ? Et on va voir quels sont ses projets, ce qu'elle fait.
Alors, on pourrait dire qu'elle est plutôt partie, la dynamique du groupe Zéro Déchet, finalement, parce que qui était un des groupes sur lesquels travaillait Savez Climat. Et c'est un copain du groupe Zéro Déchet qui, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, a décidé de lancer une boîte qui travaillait dans la collecte et le tri et la mise dans les différentes filières de tri des déchets de l'habitat, du bâtiment. Donc il a développé, il a lancé cette activité.
C'est-à-dire qu'ici, en fait, tous les déchets partaient dans cette décharge à ciel ouvert qu'il y a près de chez vous, c'est ça ?
Oui, les déchets, alors l'activité en l'occurrence était plus large que dans le Gers, hein, c'est-à-dire qu'elle se développait aussi un petit peu sur toute la région Occitanie, voire un petit peu de Nouvelle-Aquitaine. Mais effectivement, les déchets, quand ils ne sont pas triés sur chantier et qu'ils ne sont pas pris en charge de façon aujourd'hui légale d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une obligation légale là-dessus, ils partent à la benne comme tout le reste. Ce qu'on appelle un DIB, techniquement. Donc il a monté cette boîte et en discutant en fait avec lui, c'était son objectif aussi au début. On est parti dans l'idée de l'accompagner collectivement, de le rejoindre pour venir travailler à la création d'une plateforme de réemploi de matériaux de construction.
C'est-à-dire un endroit où les gens vont pouvoir les acheter. Tu parles de plateforme, c'est une sorte de boutique, quoi.
Ouais, c'est un magasin, on pourrait dire. C'est-à-dire un lieu où vont être collectés et revendus des matériaux du bâtiment, qui sont des matériaux de deuxième main, comme sur une ressourcerie, en fait. Des matériaux de deuxième main, mais spécialisés dans le bâtiment. Et donc ça, c'était l'idée, on y reviendra, je pense, c'était l'idée initiale sur laquelle on travaille. Et donc l'objectif initial, c'était de à partir de cette entreprise existante, qui était une entreprise commerciale, une entreprise commerciale d'économie sociale déjà, mais de la transformer en coopérative. Et donc il y a maintenant un an et demi de ça, on a décidé, alors le projet a un peu changé, mais on a créé en fait une coopérative de toutes pièces qui en fait a repris le flambeau de cette activité-là qui était l'activité de création donc, de la plateforme. Donc cette coopérative, c'est une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle donc Coopérative Écohabitat et dont le projet aujourd'hui, un des projets principaux donc, est de monter cette plateforme de réemploi à Lombez, donc sur un terrain dans la zone artisanale où le terrain est acheté et le bâtiment va sortir du sol dans les semaines et les mois qui viennent.
Comment elle a trouvé les sous, la SIC, pour acheter par exemple le terrain ?
Alors, l'argent vient de plusieurs endroits, plusieurs sources. Il y a un emprunt initial qui a été fait par en fait l'entreprise dont je parlais tout à l'heure et qui ayant de l'activité a pu solliciter un emprunt auprès d'une banque coopérative, d'ailleurs le Crédit Coopératif. Et en plus de cet emprunt, on a sollicité des financements publics. On a participé à un budget participatif de la région Occitanie sur lequel on a obtenu 150 000 euros. On a également notamment demandé et obtenu des fonds européens qui sont des fonds leaders sur lesquels on a obtenu 50 000 euros. Et donc voilà, donc on a la base et puis on a d'autres financements, financements bancaires qui doivent arriver. Et puis on va lancer là, dans les semaines qui viennent, un appel à financement participatif pour venir financer notamment les derniers achats d'équipements pour la plateforme. Et donc ça, ça va être notre activité d'ailleurs dans les mois qui viennent, puisque l'objectif c'est d'ouvrir la plateforme maintenant à la rentrée, à l'automne prochain.
Et le bâtiment, il est construit ?
Alors le bâtiment va être construit aussi.
Il va être éco-construit.
C'est un bâtiment de réemploi en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a acheté un bâtiment dans Lot-et-Garonne exactement, qui était donc un bâtiment métallique assez classique, tel qu'on peut en voir un peu partout. Donc ce bâtiment a été démonté et il va être maintenant remonté avec, d'ailleurs c'est intéressant de parler d'eux parce qu'ils font un boulot très intéressant, une boîte qui s'appelle Metamo, qui est à Auch et dont le métier est de travailler sur de la métallurgie de réemploi, c'est-à-dire des bâtiments métalliques et des méthodes de réemploi. C'est leur spécialité, donc c'est eux qui eh bien, ont récupéré le bâtiment et vont l'adapter en termes de structure, etc., de manière à pouvoir le remonter sur notre terrain.
Alors qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette sorte de ressourcerie, recyclerie ?
Oui, on appelle ça aussi des matériothèques. Des fois, voilà, il y a plein de mots comme ça. Eh bien, on va y trouver un petit peu tout ce qu'on peut imaginer en termes de matériaux de réemploi. On pourra y trouver des fenêtres, on pourra y trouver des briques, on pourra y trouver notamment des briques de terre crue, on en parlera tout à l'heure. On pourra y trouver des plafonds, des radiateurs, peut-être des lavabos, des WC, des câbles, tout ce que vous pouvez imaginer qui rentre dans la construction, des outils aussi. On voudrait aussi développer tout un volet outils de réemploi, voire de location d'outils.
Outils de bricolage, hein, j'imagine.
De bricolage, oui, c'est ça.
Oui, qu'en général, beaucoup de gens achètent en grand nombre quand ils font la rénovation de leur maison et qui dorment ensuite pendant des années sans servir.
C'est ça, exactement. On en a tous chez nous, je crois.
La bonne idée est de l'acheter à plusieurs, parfois.
Bah oui, c'est ça.
Alors c'est quelque chose que vous avez initié, vous êtes inspiré d'exemples qui sont déjà développés ailleurs ?
Alors il y a des exemples ailleurs, mais ils sont assez rares encore aujourd'hui. Il y a notamment un à Toulouse qui est un des plus anciens, peut-être même en France, qui s'appelle Recyclobat, qui est une association qui fonctionne depuis plus de 10 ans maintenant. Mais mis à part de ces quelques pionniers qui existent, en fait c'est un secteur qui est en plein développement parce qu'il y a des obligations maintenant légales suite à notamment la loi AGEC, bon peu importe, c'est un peu... Mais on peut apporter les détails, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre aujourd'hui qu'il y a des obligations réglementaires qui obligent, sur des gros chantiers notamment, à ce que là où avant on détruisait un bâtiment, eh bien maintenant on le déconstruit. On va déposer les fenêtres de façon soignée, tous les matériaux pour pouvoir, dans l'objectif de pouvoir les réutiliser. Il y a un objectif en fait, une obligation de diagnostic avant le chantier, de voir quelqu'un passe pour voir tout ce qui peut être réutilisé, etc. Donc tous ces matériaux qui sont sortis sur ces chantiers, il faut bien les mettre dans des endroits pour les revendre. Alors il y a des plateformes en ligne qui existent, etc. Mais il faut bien des lieux de stockage aussi et de revente, donc ils s'en développent un petit peu partout, dans tous les lieux, dans tous les départements. Nous, on serait les premiers dans le Gers. Et pour vous dire, en Occitanie, aujourd'hui, il y en a moins de 10, on peut même dire qui fonctionnent réellement, il y en a moins de 5 aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en plein développement et donc on va participer à ça avec une particularité qui est celle dont vous avez parlé en parlant de Savest Climat, c'est qu'on est sur un territoire rural et qu'il y a aujourd'hui très peu d'exemples en fait de ce type de structure en milieu rural.
Alors, ça a notre avantage, j'imagine, pour les entrepreneurs qui sont chargés de la démolition. Tu as parlé de contraintes et d'obligations, mais ça leur permet aussi de ne pas payer une déchetterie qui est parfois assez coûteuse.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les déchets, enfin tout ce qui sort d'un chantier, finalement, sont un coût pour les artisans. Et donc nous, on offre une possibilité, ce qu'on appelle d'exutoire, c'est-à-dire dans un endroit où ils peuvent venir mettre chez nous ce qui est réutilisable, revendable, sachant qu'évidemment on n'est pas une déchetterie, on ne va pas tout prendre, on prendra ce qui est possible à revendre.
Et on le a dit, hein, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et le meilleur bilan carbone pour un produit, c'est celui qui n'a pas, qui est réutilisé plutôt que celui qui est fabriqué.
Oui, et d'ailleurs là-dessus, même aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une autre zone réglementaire. Hein. C'est-à-dire que dans les bilans carbone qui sont faits aujourd'hui sur le bâtiment, quand vous utilisez des matériaux de réemploi à l'intérieur, ça baisse beaucoup votre empreinte carbone. Donc c'est aussi une incitation qui fait que ces marchés-là se développent, quoi.
Oui, alors c'était ma question suivante. Qui va acheter ce genre de matériaux? C'est ouvert aux artisans aussi? Et alors, aux particuliers, on imagine qu'ils vont faire de l'éco-rénovation, qu'ils vont aller trouver une jolie porte pour mettre chez eux qui donnera du cachet à quelque chose de neuf. Mais c'est aussi de l'artisan?
Oui, l'idée, c'est vraiment on pourrait même dire que c'est surtout des artisans, des professionnels de façon générale. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une offre qui permette de répondre des chantiers un petit peu alors à grande échelle, ou en tout cas une échelle importante pour. Alors, les objectifs au niveau national, on pourrait discuter ce terme, sont de massifier le réemploi. Donc, voilà, il faudrait en discuter. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est quand même qu'on puisse avoir des acteurs de la construction qui viennent chez nous, à qui on puisse fournir des équipements qui correspondent à ce dont ils ont besoin pour leurs différents chantiers, sachant qu'il y a des obligations dans les chantiers maintenant aussi. Vous devez mettre, pour certains chantiers publics notamment, un minimum de matériaux en réemploi. Donc on doit nous permettre de répondre à ce besoin-là. Et évidemment, les particuliers aussi pourront venir chez nous et voilà, et acheter tout ce qui leur sera nécessaire.
Cachaça de jambu, um pedaço do céu. Tô nesse carnaval, não me deixe ir. Mais uma colombina sem querer partir. Tamborim tem também a gogô dançar. Esse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Ai, que água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar. Meu bem, vim nesse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Ai, que água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar.
Alors nous sommes de retour avec Julien, donc qui s'occupe de la coopérative Ecohabitat, donc née de cette association Savès Climat, donc qui crée des alternatives sur son territoire. On a vu donc l'objectif est de créer une matériothèque. Elle a un nom d'ailleurs, on n'y a pas donné. Tu m'as pas dit comment elle s'appelait.
Oui, bien sûr, et c'est extrêmement important. Merci. Ça s'appelle Place des Matériaux. Voilà, ça sera le nom du magasin et de la structure dans laquelle on pourra trouver tous ces matériaux.
Alors on l'a vu, c'est une base dans l'éco-habitat pour faire des constructions qui soient qui ne dégagent pas beaucoup de GES, pour avoir des chantiers qui respectent le climat, c'est-à-dire continuer à créer, à construire, mais dans le respect des choses, le réemploi est essentiel. Ici, je vois, on est allé à la maison écologique avec l'ours et la carotte. Donc ce sont les maisons anciennes sont un vrai sujet, la rénovation qui elle aussi n'est pas consommatrice d'espace. Est une vraie solution, mais on se retrouve avec des bâtiments qui sont particuliers, qu'on ne peut pas gérer avec les matériaux classiques, ciment, placo-plâtre, isolation à tout crin. Ce sont des bâtiments qui s'appréhendent un petit peu différemment. Ici, dans votre zone, que je connais, je m'intéresse un peu à l'architecture, on voit beaucoup de maisons et qui sont faites avec le matériau local. Ici, sont des zones argileuses. Donc, et c'est votre sujet, c'est un autre sujet qu'aborde la coopérative, c'est la terre crue qui est employée, cette argile qui a été employée pour construire ces maisons. Et donc pour les rénover, il est important de faire avec.
Oui, c'est ça, de faire avec et de... Alors pour en dire un petit peu plus sur ce matériau, ici les maisons sont faites pour beaucoup en adobe de terre crue. Alors l'adobe c'est quoi? C'est une brique qui est faite avec l'argile qui a été prélevée sur le terrain où la maison devait être construite. Hein. Souvent on faisait un trou et on sortait cette argile du sol, on la mélangeait des fois avec un peu de matière végétale pour mettre un peu de liant et on faisait sécher au soleil. Voilà. Et donc, ce qui fait que ce matériau, il est extrêmement intéressant parce que, alors écologiquement déjà, c'est un matériau qui est réutilisable à l'infini puisque ces briques, quand vous les prenez, vous pouvez les casser, les concasser, récupérer de la terre, c'est-à-dire vous récupérez la terre telle qu'elle était initialement et refaire à des briques si vous voulez, et ceci presque à l'infini. C'est un matériau évidemment...
Ce qui n'est pas le cas avec le ciment. Hein.
Ce qui n'est pas le cas avec le ciment. C'est un matériau évidemment qui est naturel, qui ne demande pas vous voyez, l'adobe, donc ici, n'a pas demandé de cuisson, etc., n'a pas été consommatrice de gaz à effet de serre pour être cuite, etc., qui a des qualités aussi extrêmement intéressantes en termes d'hygrométrie, en termes de qualité de l'habitat, de ressenti dans l'habitat, en termes d'isolation. Alors, évidemment aussi, notamment, et on le voit aujourd'hui dans les maisons du territoire, hein, c'est-à-dire sur les phases de les périodes de canicule, on voit que c'est des bâtiments qui ont une qualité. Alors c'est lié au déphasage en fait des murs, mais qui
à la masse, à l'épaisseur des murs.
C'est ça, qui fait que ce sont des maisons qui restent fraîches en période de canicule. Donc voilà, donc on a un très beau matériau en fait de construction ici, et beaucoup de maisons, voilà, jusque dans les années 50, en fait, tout le monde construisait. Construisant en terre. Donc, partant de là, on a développé, nous, une activité, alors qu'on est les premiers à faire en France, qui est une activité de réemploi, en fait, de la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez, jusqu'à maintenant, en fait, un artisan qui va intervenir sur une maison, ou un professionnel du bâtiment, sur une maison en terre crue, s'il a à ouvrir un mur, par exemple, pour y mettre une fenêtre, ou faire tomber un mur intérieur, ou des choses comme ça, eh bien, tout simplement, la terre va être, ces adobes vont être balancés, en fait, ou alors, vu qu'elles se défont d'elles-mêmes, être balancées dans un champ à côté, ou alors mises le plus souvent à la benne avec le DIB dont je parlais tout à l'heure. Donc l'idée pour nous, c'est de dire que ces matériaux sont une richesse, qu'il y a eu du travail d'ailleurs qui a été accumulé à l'intérieur au moment où ça a été fait, que c'est un matériau qui est encore utile, dont on peut se servir et donc on peut récupérer. Et donc on a eu un financement l'an dernier par un éco-organisme qui finance aujourd'hui ces filières de réemploi, qui s'appelle un éco-organisme, qui s'appelle Ecominéraux, et qui nous a financé une étude pour voir s'il était possible de développer une activité économique de réemploi de la terre crue, de ces matériaux de terre crue. Cette étude, on l'a réalisée sur toute l'année, elle aboutit positivement en disant que voilà, on peut venir intervenir sur ces maisons, déposer soigneusement ces adobes, les stocker, puis les revendre. On peut aussi les transformer, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, quand on les sort et qu'on les a cassés, parce qu'on casse beaucoup en sortant les adobes, c'est de l'adobe, c'est de la terre crue, une fois de plus, un matériau qui peut être un peu fragile quand on le manipule. Les murs en eux-mêmes ne sont pas fragiles, hein, que ça soit bien clair. Hein, c'est-à-dire, mais par contre, c'est des murs, voilà, on a des maisons qui ont 150, 200 ans et qui sont toujours là et en très bon état. Par contre, la brique, elle va être peut-être un peu cassable, cassante par moment. Et là, on peut refaire de la terre à partir de ça. Donc nous, on concasse cette terre, on la tamise et on vend des sacs de terre qui permettent ou de refaire des adobes, comme je vous disais, ou alors de faire des enduits. On peut faire aujourd'hui beaucoup de choses magnifiques en enduit. Et donc, on développe toute une activité là-dessus transformation et de revente en fait de la terre crue ou sous forme d'adobe ou sous forme de terre en vrac.
Alors c'est intéressant parce que tu parles d'enduit, mais j'ai envie de lancer du coup un appel personnel pour le patrimoine. C'est quand on rénove une maison qui est en terre crue, enfin une maison qui a été construite avant 1900 ou avant 1950, il faut faire très attention à ce qu'on emploie. Il ne faut pas enfermer les murs, parce qu'en général, dans ces cas-là, comme ce sont des matériaux qui laissent passer l'humidité et sur des bâtiments qui ont rarement des fondations, vous avez l'humidité qui remonte par les murs, qui se retrouve piégée, qui ne peut pas sortir, parce que d'un côté, elle a du ciment et de l'autre côté, elle a du placo. Et donc, ça fait des murs qui, par contre, deviennent de plus en plus fragiles. Et votre maison, elle est peut-être bien isolée, mais en fait, elle va s'effriter petit à petit et devenir fragile et voir se casser. Il y a d'ailleurs un volet dans votre association, enfin dans la coopérative, de sensibilisation à ces matériaux et à la rénovation.
Oui, bien sûr, ça fait partie des activités que, alors, qu'on commence à développer en communiquant un petit peu, mais qu'il va falloir qu'on développe. L'idée de notre lieu, en plus de cette plateforme de réemploi qu'on est en train de créer, on va créer un deuxième bâtiment, et dont on veut faire un pôle aussi d'éducation, de sensibilisation autour de l'éco-construction de façon générale, du réemploi, mais aussi autour de la terre, pour apprendre ce que je venais de dire, par exemple, qui est très très juste, et qui est aussi, qui permet aussi un peu pragmatiquement de créer des débouchés pour nos matériaux. C'est-à-dire que ce matériau, on y croit, la terre, on sait qu'il a d'énormes qualités, que le bâti ici doit être rénové effectivement avec ces matériaux-là. Et donc, il faut qu'on explique que pourquoi il faut effectivement rénover, faire ces enduits en terre et pas les faire en ciment ou mettre du placo sur ces bâtiments-là. Donc, c'est sensibiliser la population de façon générale, mais c'est aussi faire des formations pour les artisans qui n'ont pas été formés à ces matériaux-là. Il y a assez peu d'artisans en fait qui connaissent en fait la technicité autour de la terre, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est pas plus compliqué d'ailleurs qu'autre chose. Le tout, c'est de savoir comment ça marche. Donc, on va proposer on commence à le faire d'ailleurs. On a eu organisé des formations avec des architectes notamment. Donc, proposer des formations autour de la terre, autour du réemploi, pour développer ces pratiques sur le territoire et pouvoir aussi. L'objectif quand même de ce lieu, c'est de pouvoir, et c'est ça le lien avec Savès Climat aussi, pourquoi s'emparer de cette question de l'habitat, c'est de pouvoir fournir un lieu sur le territoire qui permettent de répondre aux enjeux des rénovations du bâti sur le territoire. Rénovation pour des raisons évidemment climatiques, écologiques, il faut qu'on baisse les émissions de gaz à effet de serre de nos maisons. Il faut aussi qu'on les rende plus qu'on les adapte en fait aux nouvelles conditions qui arrivent, comme toutes ces canicules qui sont de plus en plus fréquentes l'été. Et du coup, il y a aussi un enjeu social derrière, c'est-à-dire rendre l'habitat qui est l'habitat précaire aussi, rendre nos maisons plus agréables à vivre, plus faciles à vivre pour tout le monde. Donc l'objectif, nous, si on regarde un petit peu à long terme, parce que tout ça, on ne va pas le faire du jour au lendemain, là on est pris dans pour aujourd'hui c'est la plateforme, il faut sortir le bâtiment du sol, etc. Mais le rêve qu'il y a derrière, on va dire, l'utopie qu'il y a derrière, c'est l'idée de fournir un lieu qui permette de répondre à toutes ces situations en fait de besoin de rénovation du bâti sur le territoire
et de relocalisation, donc de robustesse aussi d'un système et de relocalisation de l'économie, donc la richesse qui est produite ici et pas à l'autre bout du monde.
Tout à fait, évidemment, quand vous déposez, cette terre par exemple, ces adobes d'une maison qui est sortie ici, que vous les amenez sur notre plateforme, que vous les revendez et que des artisans du coin travaillent sur votre maison pour la mettre en place, en fait tout ça c'est de l'économie locale, en fait l'argent n'est pas sorti d'ici. Si vous allez acheter des briques par contre dans un magasin, des briques qui ont été fabriquées mais à l'extérieur du territoire, etc., vous allez payer à des entreprises qui ne sont pas sur le territoire, vous allez avoir une fuite en fait d'argent en dehors du territoire. Et donc évidemment, oui, on participe, et je pense que c'est un élément extrêmement important, bien sûr, à la relocalisation de l'activité.
Alors, il y a une dernière question que j'aimerais te poser. C'est, tu m'as parlé donc de cette coopérative Eco-Habitat, mais il y a une chose dont une coopérative, on a vaguement une idée de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste?
Une coopérative, c'est un regroupement de personnes, des gens, on peut dire ça, qui vont s'auto-organiser pour répondre à un besoin qu'ils ont en commun. Donc on peut dire que la coopérative, initialement, c'est vraiment ça.
La différence avec une association, c'est qu'elle a le droit de faire des bénéfices, c'est quoi ?
Oui, c'est ça, c'est qu'une, on va dire de façon générale, une coopérative est plus équipée pour venir répondre à une question économique, bien que l'association puisse faire plein de choses aussi en réalité avec une association. Mais une coopérative, c'est une entreprise, on peut dire ça aussi. C'est une entreprise, c'est-à-dire que nous, par exemple, nous sommes une SARL, une SARL, mais une SIC SARL, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, SARL, c'est-à-dire que vous avez un statut, on est une entreprise commerciale, mais par-dessus, il y a un statut coopératif, c'est-à-dire qui rajoute un certain nombre d'obligations qui sont des obligations qui ont trait au fonctionnement coopératif.
Comme
la démocratie, La grande particularité, une des grandes particularités de la coopérative, quand même, c'est que c'est une entreprise qui va pouvoir faire exactement les mêmes choses que toutes les autres entreprises, sauf que c'est une entreprise démocratique. C'est-à-dire qu'on a commune de dire, finalement, la démocratie s'est arrêtée à la frontière de l'entreprise, hein, dans notre monde économique. C'est-à-dire qu'on trouve normal que, bah, une commune fonctionne de façon démocratique, qu'une région fonctionne de façon démocratique, que des instances publiques fonctionnent de façon démocratique. Par contre, les entreprises ne fonctionnent pas de façon démocratique. Pourquoi ? Parce que le pouvoir est à ceux qui ont apporté le capital à l'intérieur. La particularité dans une coopérative, c'est que quel que soit le capital que vous avez amené, vous avez une voix. Voilà. Ce n'est pas le nombre de capital qui détermine le nombre de voix, c'est une personne, une voix. Donc on a égalité dans l'entreprise de la même manière qu'on a une égalité politique à l'extérieur.
Le capital amené, lui, fait des parts dans la coopérative qu'on peut récupérer quand on la quitte.
Oui, c'est des parts sociales. Alors ça, c'est des parts sociales qu'on a comme dans d'autres entreprises. Mais la particularité, c'est que celle-là, effectivement, ne... Alors il y a deux particularités. C'est qu'effectivement, elle ne donne pas plus de pouvoir, vous pouvez en avoir. Nous, la part sociale, par exemple, est à 100 euros. Que vous en ayez amené, acheté 10 en rentrant, 100, 1000 ou une, vous avez toujours une voix. L'autre particularité, c'est la rémunération du capital dans une coopérative qui va être beaucoup plus limitée que dans une entreprise classique où l'objectif en fait d'une on va parler de lucrativité limitée. Évidemment, une coopérative, c'est une entreprise, donc il faut qu'elle fasse des recettes, des bénéfices, il faut qu'elle soit rentable tout simplement, comme n'importe quelle entreprise. La différence, c'est que par contre, ces bénéfices vont être attribués prioritairement au projet et à la continuité du projet. Et éventuellement, vous pouvez avoir une rémunération du capital, c'est plutôt très rare, voire quasiment nul, sur des types de coopératives comme les nôtres, qui sont une société coopérative d'intérêt collectif, on peut en dire un mot d'ailleurs sur sa spécificité. Mais voilà, l'idée générale, c'est ça. Donc pas de démocratie, pas de lucrativité, en tout cas lucrativité limitée du capital.
Alors, tu me disais donc cette spécificité de la SCIC.
Oui. Alors la SCIC, c'est une forme assez nouvelle, parce qu'elle a 25 ans à peu près, cette forme juridique-là. Initialement, la coopérative sont plutôt des coopératives de travailleurs. C'est ce qu'on connaît, c'est les SCOP, qui sont des gens qui se réunissent, s'auto-organisent pour mettre en commun leur travail et pour venir produire, posséder leur entreprise, c'est-à-dire devenir eux-mêmes les patrons de leur entreprise et partager le pouvoir de leur entreprise.
Oui, les coopératives, à la base, c'est le Crédit Agricole, ce qui est devenu le Crédit Agricole maintenant, c'est les grandes coopératives agricoles, c'est eux qui ont lancé un peu la coopérative.
Pas tellement. Pas tellement, on pourrait dire. Non, pas tellement.
Ça a été dévoyé, mais à la base, c'est ça.
Non, la coopérative est née plutôt dans le travail, on va dire. Réellement, les premières coopératives, c'est dans les années 1830, en D'accord. fait. C'est des artisans qui se regroupent pour mettre en commun leur outil de production et qui vont créer ces premières coopératives de travailleurs. On va avoir plus tard, en fait, des coopératives bancaires comme le Crédit Agricole ou des coopératives agricoles, mais qui ont des particularités. Les coopératives agricoles, c'est un peu différent. Et ce qu'on peut dire, voilà, sur l'histoire coopérative, c'est que on a une tendance pour les grandes coopératives à un moment donné à se normaliser. C'est ce qu'on observe sur les grandes coopératives agricoles ou bancaires, où on n'arrive plus à faire la différence au final entre ce que font ces entreprises-là et puis des entreprises qui ne seraient pas coopératives.
Donc, elles ne travaillent plus forcément pour les gens qui les ont créées, pour qui elles ont été créées, elles fonctionnent en vase clos pour elles-mêmes.
C'est ça. Elles ont perdu quelque chose en route, en fait. Et c'est intéressant de le dire, parce que qu'est-ce qu'elles ont perdu en route ? Ben, elles ont perdu leur raison d'être là, qui est, je parlais d'utopie tout à l'heure, et pour moi c'est vraiment extrêmement important, c'est ça, c'est-à-dire c'est le rêve qui les portait initialement. C'est-à-dire, les coopératives bancaires, par exemple, ont été créées initialement de façon, et le Crédit Agricole notamment, c'est-à-dire pour répondre aux besoins de financement des petits agriculteurs. Et ça, voilà, l'utopie, c'était ça, c'est de fournir à chaque agriculteur le moyen de pouvoir accéder au crédit, etc. Bon, ben, ça, ce rêve-là, c'est perdu en route, clairement. On va dire que, les coopératives agricoles, c'est aussi la même chose. Donc, ce qui est extrêmement important, et ce qui est toujours une tension dans la coopérative, ça va être les objectifs de rentabilité que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est sur un marché, qui a des objectifs économiques et qui doit garder aussi qui doit garder son rêve à l'intérieur vivant. C'est d'ailleurs son projet, ce qu'on peut appeler aussi son projet politique. Et c'est ça qui crée des tensions, parce que des fois, politiquement, on voudrait aller beaucoup plus loin, mais la réalité économique ne le permet pas. Et voilà, il faut faire en sorte que ce ne soit pas toujours la réalité économique qui gagne.
Et alors la SCIC, elle amène quoi de plus ?
Alors la SCIC, sa particularité, c'est que c'est une entreprise, c'est une coopérative multipartenariale, dans laquelle vous pouvez regrouper autour d'un projet des gens qui ont un intérêt commun autour de ce projet. Nous, typiquement, ça veut dire que vous n'avez pas que des travailleurs, que les gens qui travaillent dans la coopérative. Nous, par exemple, eh bien...
On peut avoir des actionnaires, finalement.
Alors, c'est plus que... c'est pas des actionnaires, parce qu'ils sont tous actionnaires, finalement. Ils sont tous sociétaires. En coopérative, on dit pas actionnaire, on dit sociétaire. Mais ce sont des gens qui sont tous, qui amènent l'argent, une fois de plus, pas pour gagner des sous, parce qu'ils ne vont pas en gagner. Je veux dire, ça ne peut pas être une motivation. Ils savent, on leur dit dès le début qu'ils ne s'enrichiront pas en venant chez nous. Par contre, ils vont avec nous venir répondre à un besoin commun. Et ici, c'est autour de l'habitat. Donc, les collectivités peuvent rentrer dans la coopérative. Les artisans peuvent rentrer dans la coopérative. Des bénévoles, toute une série de gens qui sont intéressés par un projet commun. Et le principe de la coopérative, c'est ça. Et c'est ça qu'on essaie de développer sur notre territoire. Regrouper toutes les bonnes volontés autour de la question de l'habitat.
Merci, beau projet, à qui on souhaite vraiment une belle réussite. Un endroit où les gens qui veulent s'inspirer de votre modèle, de vos idées, peuvent aller voir des choses.
Eh bien, un site internet qui s'appelle ecohabitat.coop, C-O-O-P, comme coopérative.
Merci beaucoup, Julien. Bon vent donc à ce projet.
Merci à vous, Nicolas.
L'ours et la carotte, écoutable sur internet. À la semaine prochaine.